Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et il le couvrit de ses baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. » « Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez, cherchez le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons. Car mon fils, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, cette parabole que nous venons de réentendre, que nous connaissons bien, celle du fils prodigue, me semble tout d'abord, il faut le dire, toujours d'actualité. La parole est toujours actuelle. Et je commencerai d'abord par les fils prodigues. Les fils prodigues qui partent en claquant des portes de la maison familiale, des fils qui se jalousent pour des questions d'héritage. Ça ne manque pas. Cette tentation, je dirais, de gérer son héritage à la manière du cadet, elle existe par ailleurs, et il faut l'avouer, plus ou moins en chacun d'entre nous. Même si souvent nous voyons chez les autres ces gens qui claquent les portes, Jésus nous rappelle qu'en fait, c'est d'abord en moi que ça se situe. C'est toutes les fois, je dirais, où nous disons « je fais ce que je veux, tant pis pour les autres ». Autrement dit, je suis le fils prodigue chaque fois que je cherche, on peut dire, un certain amour inconditionnel, quelquefois c'est inconscient, là où il ne peut être trouvé. Ça peut être quand j'utilise mon propre corps comme un héritage que je m'approprie, ma propre santé, mes dons intellectuels, émotionnels, l'argent, mes biens matériels, ma maison, ma voiture, même les dons de Dieu, rien que pour vivre sa petite vie à soi, au lieu de le développer et de l'ordonner, de le finaliser pour la gloire de Dieu. Vous voyez, le nom du cadet reflète quelque part cette révolte originelle d'Adam qui est en nous. Cette subtile tentation de vouloir être tout puissant comme Dieu, mais sans Dieu. Et ça, nous pouvons le retrouver à tous les niveaux, même en politique. Demandons à Jésus aujourd'hui de nous montrer en quoi et comment nous ressemblons au fils cadet. Voyez, comment nous prenons ce risque des hors-pistes, comme on peut dire, des hors-pistes, en se justifiant « tant pis pour les avalanches, tant pis pour les autres ». Ce qui est important, c'est de s'éclater. Vous savez, c'est la route, on peut le faire facilement, ça. On prend la voiture et on ne pense pas aux autres. C'est gaspiller, quelque part, un héritage. Les fils aînés, à l'opposé du cadet, alors là, c'est sûr que lui, il ne claque pas la porte. Il paraît parfait, l'enfant idéal, mais voilà, c'est quelqu'un, et on le sait, qui est enfermé dans sa tour d'ivoire, je dirais, du perfectionnisme. Là aussi, bon, il y aurait quoi faire toute une méditation, mais nous sommes aussi quelque part à l'image de l'aîné. Et ça nous arrive tous, par exemple, en jugeant de haut les autres. Vous voyez, ceux qui ne pratiquent pas comme moi, qui n'ont pas la même sensibilité que moi, qui ne pensent pas comme moi, bien sûr, c'est toujours les autres qui sont moins bien que moi. Et on s'enferme facilement, vous voyez, dans un jugement, dans un cocon, qu'il soit familial, ecclésial, communautaire, personnel. Est-ce pour l'amour de l'argent? Ça arrive. Est-ce par peur de la différence? Est-ce que c'est par souci de sécurité, manque d'audace? Il y a plein de raisons, sûrement, qui peuvent être là en train de nous tenter. Mais à l'image de l'aîné, nous le sommes. Et à chaque fois quand nous revendiquons, on peut dire une justice, une morale implacable. Et cette tentation est beaucoup plus subtile encore que la première. Je préfère, à la limite, quelqu'un qui claque la porte. Charles Péguy disait, cette belle parole à propos de cet évangile, il y a pire qu'une âme pécheresse, c'est une âme habituée qui se croit parfaite. Il nous reste la troisième figure de la parabole, c'est la plus importante, me semble-t-il, c'est le Père. La parabole présente Dieu comme un Père bon et généreux, patient, vrai, respectueux, qui ne cesse de se donner, de tout donner, rien que pour le bonheur de ses fils. Et du côté de Dieu, on peut dire, du côté de Dieu, cette paternité aussi est toujours actuelle puisqu'elle est éternelle. Dieu est toujours bon. Et il n'est que bon. Ô combien nous doutons sur sa bonté. Mais du côté de nos paternités humaines, ou maternités humaines, que de parents, et là je renvoie à ceux qui ont des enfants, mais c'est vrai pour un prêtre, autrement dit, enfin, dans nos relations aux plus petits, tenter d'avoir un enfant ou un fils, une fille, rien que pour un but intéressé. Vous voyez, l'enfant rentable. Question, on choisit, ça existe, un enfant pour des questions de réduction d'impôts. allocation familiale, bras utile plus tard, comme ça il pourra m'aider à faire la maçonnerie. Les enfants, vitrine, là je ne rentre pas dans le détail. Ah, mon fils, il sera quelqu'un. La fierté des parents. Enfant thérapeute, ben voilà le couple qui est un petit peu en difficulté. Voilà, on espère que l'enfant va un petit peu apporter de la gaieté dans la famille. Enfant nounours, bon ça, je veux dire. Enfant canari, enfant accident, tiens, on choisit par hasard, bon tant pis, tombe par hasard, voilà. Enfin, et je crois que c'est vrai aussi, il y a des parents qui sont un peu à l'image de Dieu, qui vont choisir un enfant, qui vont rentrer dans une filiation, rien que pour rendre heureux des êtres nouveaux, rien que pour apporter une vie nouvelle à quelqu'un d'autre, apporter sa propre joie, sa propre vie à un autre créateur. À une autre créature. Et là, on renvoie à cette belle parole de l'Évangile. « Tout ce qui est à moi est à toi, dit le Père à l'aîné. » Être père, être mère, rien que pour donner sa propre vie, son propre bonheur à l'enfant. Comme ça, rien que pour lui. Ça, c'est beau. Et c'est ça qui rend heureux. Alors, avec Dieu, ce qui est étonnant aussi, c'est vrai que c'est étonnant la parole, hein, c'est vrai qu'il nous permet pas seulement, vous voyez, de prendre dans la caisse ou dans le frigo comme on veut. Enfin, c'est pas ça, c'est pas exactement dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Mais Dieu nous fait comprendre qu'il nous donne tout, il nous donne sa propre vie. Rien n'arrête Dieu dans le don, je dirais, de sa miséricorde. Vous voyez, même pas, je dirais, la contrition imparfaite du cadet. C'est comme un peu facile. Enfin, vous voyez, moi, à la place du père, j'aurais dit, écoute, fiston, franchement, tu as bien mérité tes malheurs. Franchement, tu as tout gaspillé avec les filles. Tout l'argent que moi, j'ai gagné avec la sueur de mon front. C'est trop facile de revenir, en plus, voilà que... Bon, pardonner à la limite, mais faire la fête avec toi, non. Hein, t'es venu parce que tu préfères le bon steak de papa au canigou du chien, quoi. Enfin, c'est trop facile. C'est une justice qui nous habite. Et non, Dieu n'agit pas comme nous. Il ne pardonne, lui pardonne pas non plus. Bon, c'est vrai qu'il pardonne totalement, mais il pardonne pas non plus à la manière comme des simples excuses. Vous voyez, c'est pas le bon papa qui pardonne entre deux portes et qui laisse tout faire. Hein, c'est pas ça. Il est exigeant, le Père du ciel. Mais dans son pardon, il reçoit son Fils. Quelque part, il lui renvoie à sa propre dignité. Il l'accueille comme un roi, comme un prince, comme son propre fils. Autrement dit, vous voyez, il ne va pas simplement lui apporter des vêtements usagés ou l'envoyer, ben c'est marqué, hein, chez Christian Dior, hein, pour l'habiller super bien, avec un bijou, etc. Non. Il veut lui redonner cette dignité de fils de Dieu. C'est le plus beau cadeau, hein, qu'on peut donner à quelqu'un. Vous savez, vous connaissez cette belle histoire de... Je crois que c'est Guy Gilbert qui raconte, j'aime bien, vous la connaissez déjà, c'est l'histoire des foulards blancs. C'est très très beau. Donc c'est un jeune de 20 ans qui avait sali vraiment, détruit quasiment la réputation de ses parents. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais enfin c'était un truc pas très beau. Vraiment contre ses parents, là, enfin vraiment. Et il s'appelait Jean. Et son papa, lui dit un jour, écoute, va-t'en. « Pars d'ici, je ne te supporte plus et je ne veux plus jamais te voir chez moi. » Tu m'as fait trop mal. Alors Jean est parti, donc il est parti avec la mort dans l'âme à 20 ans, hein, dans les rues de Paris, plus de maison. Et quelques semaines, je ne sais plus très bien, quelques mois plus tard, il s'est quand même dit dans son cœur, « Ben oui, je suis quand même une ordure, quoi. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait ?» À mon père, c'est terrible, j'ai vraiment fusillé mon père, quoi, c'est pas normal, là, il faut que je fasse quelque chose, je peux pas rester dans cette attitude, il faut que je lui pardonne. Mais il avait tellement peur de voir son père, la peur du père, hein, ça nous habite tous, il s'est dit, je peux pas aller le voir parce que, voilà, je risque encore de me faire éjecter. Et il a pris le courage, quand même, d'écrire une lettre. Et dans sa lettre, il lui dit, voilà, papa, je voudrais bien que tu accueilles mon pardon, mais j'ai peur de toi. La vérité, c'est important. J'ai peur de toi, et c'est pour ça que je t'écris ce petit mot, et je voudrais que tu me fasses un signe. Moi, je voudrais bien revenir à la maison, mais voilà, je voudrais que tu mettes un foulard ce dernier des pommiers de la maison. Enfin, il y a une sorte d'allée de pommiers devant la maison. Et ce dernier des pommiers, tu mettras un foulard blanc. Comme ça, lorsque je passerai d'ici quelques jours, quelques semaines, je sais que tu me pardonnes. Que tu me pardonnes et que je peux enfin te revoir. Et donc, quelques jours, quelques semaines après, il demande à son frère, Marc, et à un ami, de le conduire en voiture. Parce qu'il n'avait pas le courage d'aller tout seul dans cette allée pour éventuellement ne pas voir ce foulard. Et donc, il part avec la voiture, il se met à côté du chauffeur, et il ferme les yeux et il se laisse conduire par ses amis. Et il arrive devant la maison et puis il dit, les yeux fermés, alors qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vois un foulard blanc? Puis son frère qui dit non. Il n'y a pas de foulard blanc sur le dernier pommier. Ouvre tes yeux. Et ouvre les yeux. Et qu'est-ce qu'il voit? Des milliers de foulards dans toute l'allée centrale, sur tous les pommiers qu'il y avait devant la maison. Et bien sûr, le fils courut vers son père et l'embrassa. Vous voyez, Dieu nous invite vraiment à cette grâce, je dirais, la réconciliation. Nous avons tous un chemin de réconciliation à faire. On n'a pas forcément claqué la porte de la maison, et encore. Ouais, mais voilà, demandons au Seigneur cette grâce. Vous voyez, c'est une sacrée leçon pour nous aujourd'hui. Le pardon de Dieu, ce n'est pas une simple remise à zéro. Vous voyez, ce n'est pas simplement une réparation d'une offense qui a été faite. Vous voyez, Jésus va pousser au maximum l'amour. Et le pardon vient comme tisser, fortifier, unir davantage la relation entre celui qui a été offensé et l'offenseur. C'est très beau ça, hein? C'est que Dieu va chercher à encore plus profiter du mal qui a été fait pour rétablir la relation, voire l'enrichir. Mais Jésus veut vraiment nous couvrir de baisers, nous rappeler que nous sommes vraiment ses fils et ses filles pour l'éternité. Alors, est-ce que nous avons le courage? C'est pour ça que la messe aujourd'hui, c'est le dernier virage avant Pâques, demandons au Seigneur le courage de revenir, nous aussi, avec un cœur vraiment contrit, là où il faut que nous soyons contrits, à l'image de cette parabole. Donc, demandons à Marie aussi cette grâce de voir en Jésus le Fils aîné parfait, hein, qui ne cesse de nous aider, nous, les frères cadets, qui sont pas toujours très, très fidèles, à entrer dans cette maison éternelle du Père.